Chapitre 11. Maintenant, Jésus approche de Jérusalem. Ses disciples marchent à sa suite, et pas seulement ceux qui avaient passé 3 ans en sa compagnie, mais Bartimée aussi, qui n'y est peut-être que depuis 3 heures. C'est à Béthanie qu'habitaient quelques personnes qu'il aimait. Et là, il trouve l'annon pour entrer dans la ville de Jérusalem, comme Zacharie l'avait annoncé. Le Seigneur a besoin de cet annon. Il en connaît le propriétaire et sait qu'il y aura une réponse immédiate à ce dont il a besoin. Il était le serviteur de la volonté de Dieu et il savait où trouver tout ce qui était nécessaire pour accomplir son service, qu'il s'agisse de l'âne dans ce chapitre ou de la grande pièce garnie au chapitre 14 ou en d'autres occasions. Jésus entre dans Jérusalem, comme l'avait dit le prophète, juste, humble, et ayant le salut. Il y a un élan d'enthousiasme éphémère, car les hommes n'ont aucun désir durable de ce qui est juste, et la sainteté ne les attire pas. De plus, le salut qu'ils désiraient était un salut simplement pour la terre. Ils auraient été contents d'être libérés de la tyrannie de Rome, mais n'avaient aucun désir d'être délivrés de l'esclavage du péché. Leur hosanna concernait le royaume de David qu'ils espéraient voir venir, ce qui fait que bien vite s'éteignent leurs cris. Le Seigneur va droit au fond des choses en entrant dans le temple. En ce qui concerne les relations d'Israël avec leur Dieu, c'était le centre de tout. Et c'était là que se manifestait le mieux leur état sur le plan religieux. Rien n'échappe à l'examen du Seigneur, car il est dit qu'il promena ses regards de tous côtés sur tout. L'incident concernant le figuier a lieu le lendemain matin. Le figuier est une figure d'Israël, et plus particulièrement du résidu de la nation qui avait été rétablie dans la terre de leur père et au milieu duquel était venu le Christ. Luc 13, versets 6 à 9 nous le montre. La nation entière avait été la vigne du Seigneur, et le résidu restauré était comme un figuier planté dans cette vigne. Le roi étant entré, selon la parole prophétique, le moment suprême de l'épreuve était venu. Il n'y avait que des feuilles. Bien que ce ne fût pas le temps des figues, il aurait dû y avoir beaucoup de figues vertes, promesses d'une fécondité à venir. Le figuier n'était bon à rien et ne devrait plus jamais porter de fruits. Suite à cela, au verset 15 à 19, nous avons ce que fait le Seigneur pour purifier le temple. La pensée de Dieu, en établissant sa maison à Jérusalem, était que ce soit un lieu de prière pour toutes les nations. Si un homme, quel qu'il soit et à quelque race qu'il appartienne, recherchait Dieu en tâtonnant, il pouvait venir à cette maison et entrer en relation avec lui. Les Juifs l'avaient transformé en caverne de voleurs. Voilà l'effroyable spectacle que rencontre le saint regard de Jésus quand il inspecte la maison de Dieu le soir précédent. Sans doute les Juifs auraient donné de bonnes raisons pour permettre de telles abominations. Les étrangers n'étaient-ils pas obligés de changer leurs différentes monnaies? Ne fallait-il pas des colombes pour les plus pauvres qui n'avaient pas les moyens d'offrir un sacrifice plus important? Mais tout cela avait été ravalé au niveau d'une entreprise lucrative. Celui qui venait de loin chercher Dieu risquait, quand il arrivait au temple, d'être repoussé par la malhonnêteté de ceux qui y faisaient leurs affaires. Terrible situation. Les gardiens de la maison étaient une bande de voleurs, et le Seigneur le leur dit. Cela met les scribes et les principaux sacrificateurs en fureur, et ils décident de le faire mourir. Depuis bien longtemps, des maux exactement semblables se manifestent dans la chrétienté. C'est une chose terrible à dire, mais la vérité exige que ce soit dit. De nouveau, la religion a été transformée en entreprise lucrative au point que celui qui prétendait vouloir trouver Dieu a souvent été complètement dégoûté. On peut voir cela, sous ses formes les plus outrées, dans le grand système catholique romain, mais on peut le voir ailleurs sous une forme différente. C'est l'erreur de Balaam, et beaucoup s'y abandonnent pour une récompense, comme nous le dit Jude. Veillons soigneusement à éviter cela. Aujourd'hui, la maison de Dieu sur la terre est formée de saints, non pas de pierre morte, mais de pierre vivante. Et il faut que nous apprenions comment nous devons nous y conduire. La première lettre de Paul à Timothée nous donne les instructions nécessaires. Dans cette lettre sont tout à fait remarquables des expressions comme « n'aimant pas l'argent », « non avide d'un gain honteux ». Privés de la vérité, ils estiment que la piété est une source de gain. Or, la piété avec le contentement est un grand gain. Si de telles expressions nous gouvernent, nous serons gardés de ce piège. Comme ils entrent dans Jérusalem, le lendemain matin, ils voient le figuier auquel le Seigneur avait parlé sécher depuis les racines. Le mal qui l'a frappé a agi d'une manière qui n'est pas naturelle. Sinon, il aurait séché à partir du haut jusqu'en bas. Ce fait proclame que c'est Dieu qui l'a fait, et cela surprend Pierre qui attire l'attention sur ce point, invitant ainsi le Seigneur à faire une double remarque sur ce qui est arrivé. D'abord il dit « Ayez foi en Dieu ». La tendance des disciples était d'avoir foi dans les choses visibles, dans le système mosaïque, dans le temple, en eux-mêmes en tant que peuple, ou dans leur sacrificateur et dans leur chef. Nous avons exactement la même tendance, et ne nous arrive-t-il pas, facilement, d'accrocher notre foi à des systèmes, à des mouvements ou à des conducteurs doués? Aussi avons-nous besoin d'apprendre exactement la même leçon, qui est que toutes ces choses-là viennent à manquer, mais que Dieu demeure. Il est fidèle, et il reste comme l'objet de la foi quand une malédiction tombe sur le petit figuier que nous avons chéri. Littéralement, l'expression est « Ayez la foi de Dieu ». C'est comme si le Seigneur nous disait « Comptez fermement sur la fidélité de Dieu, peu importe ce qui peut sécher et disparaître ». Mais cela conduit à ce que le Seigneur dit ensuite concernant la prière et où l'accent est à nouveau mis sur la foi. Quiconque dira, et ne doutera pas dans son cœur, mais croira, tout ce qu'il aura dit lui sera fait. Les expressions « quiconque » et « tout ce que » en font une déclaration absolue et des plus saisissantes quand nous en mesurons la portée. Mais cela se lie à la prière mentionnée dans le verset qui suit, où nous avons « tout ce que vous demanderez, croyez, et il vous sera fait ». Dans ces deux versets, évidemment, il s'agit avant tout de savoir si l'on croit. Or, croire, c'est avoir la foi. Et la foi n'est pas simplement quelque chose qui vient de l'homme, une sorte de chimère ou de produit de l'imagination. Le verset 24, par exemple, ne signifie pas qu'il suffit que je réussisse à imaginer que je reçois ce que j'ai demandé pour que je le reçoive effectivement. Mes prières, d'après le verset 24, et mes paroles, d'après le verset 23, doivent être le résultat d'une foi authentique. Et la foi est cette faculté spirituelle en moi qui reçoit la parole divine. La foi est l'œil de l'âme qui reçoit et apprécie la lumière divine. Si ma prière est fondée sur une foi intelligente, je croirai que je reçois et je recevrai effectivement ce que je désire. Et il en sera de même de ce que je peux dire, comme nous le trouvons au verset 23. On pourrait citer des cas, dans l'œuvre missionnaire contemporaine, qui illustrent le verset 23. Plus d'une fois, dans des contrées païennes, les serviteurs du Seigneur se sont trouvés en présence de tristes cas de possession démoniaque qui défiaient la puissance de l'Évangile. Avec une pleine foi dans la puissance de l'Évangile, ils ont à la fois prié et parlé. Ce qu'ils ont dit s'est accompli, et le démon a été obligé de partir. Les versets 25 et 26 introduisent une autre condition indispensable. La foi nous amène dans des relations avec Dieu qui sont ce qu'elles doivent être, mais nos relations avec notre prochain doivent être ce qui convient si nous voulons prier et parler et qu'il y ait des résultats. Ayant été nous-mêmes des objets de miséricorde, à qui il a été tellement pardonné, nous devons être nous-mêmes remplis de cet esprit de miséricorde et de pardon. Sinon, nous aurons affaire au gouvernement de Dieu. Comme le Seigneur, de nouveau à Jérusalem, se promène dans le temple, les principaux sacrificateurs et autres responsables du temple viennent contester l'autorité par laquelle il a agi la veille en purifiant ses bâtiments. Le Seigneur leur répond en leur demandant de se prononcer sur une question préliminaire. Le ministère et le baptême de Jean étaient-ils recevables ou non? Ils réclamaient les lettres de créance du Maître suprême. Mais que fallait-il penser de celles de l'humble précurseur? Il serait bien temps de considérer le problème capital quand on aurait réglé celui qui est secondaire. Qu'ils tranchent la question en ce qui concerne Jean. Ils se trahissent par la façon dont ils répondent. Ils n'avaient pas l'intention de se prononcer sur le fond. Pour eux, la grande affaire était ce qui pouvait les servir sur le moment, et sur ce point, ils se trouvaient enfermés dans un dilemme. Se prononcer d'un côté ou de l'autre les mettrait dans une position difficile. Ils sont assez avisés pour s'en rendre compte, et ils décident donc de plaider l'ignorance. Mais ce prétexte ne leur permet plus d'exiger que le Seigneur soumette ses lettres de créance à leur examen rigoureux. Ils proclament leur incompétence dans ce qui était facile, et ainsi ne peuvent pas insister pour qu'on se rende à leurs exigences dans ce qui était difficile. Du ciel ou des hommes? Telle était la question en ce qui concernait Jean. C'est aussi la question qui se posait au sujet de notre Seigneur lui-même. À notre époque, nous pouvons aller plus loin et dire que cette question se pose pour la Bible. Jean n'était qu'un homme, et pourtant son ministère était du ciel. Le Seigneur était vraiment venu sur la terre, étant né de la Vierge. Cependant, il était du ciel, comme l'était aussi son ministère incomparable. La Bible est un livre qui nous est donné par des hommes. Cependant, ce n'est pas une parole d'homme, car ceux qui ont écrit étaient poussés par l'Esprit Saint. De Pierre 1, verset 21. Lorsque nous avons dans notre âme une conviction qui nous est donnée par Dieu, que la parole vivante et la parole écrite sont toutes deux du ciel, leur autorité est bien établie dans notre cœur.